Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7. 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Et j'insiste sur les termes international et droit. Il me semble évident que l'on doit rendre hommage à ces femmes, ces combattantes féministes qui sont le fondement des libertés que nous les femmes avons obtenues. Ces femmes se sont battues. Beaucoup sont mortes, assassinées. Elles organisèrent des conférences, discutèrent âprement chaque loi, chaque liberté qu'elles voulaient acquérir. Elles écrivaient, elles pensaient, prouvant au monde que les femmes avaient aussi un rôle intellectuel, politique et révolutionnaire à tenir. Vous comprendrez après cela que les fémènes avec leur passion du nudisme me font doucement rigoler. On doit se battre à armes égales, c'est-à-dire avec notre cerveau et non avec nos culs. Cette manière de faire est pour moi un acte de haute trahison par rapport à celles qui ont bouleversé nos vies par leur combat. Je pourrais consacrer cette émission à l'instigatrice de cette journée, à la social-démocrate allemande Clara Zetkin, qui lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague en 1910, avait proposé d'organiser chaque année au mois de mars une journée internationale de la femme. La résolution adoptée précisait que « les femmes socialistes de tous les pays doivent l'organiser en accord avec les organisations politiques et syndicales ». Clara Zetkin, poursuivant son idée, à savoir l'obtention du droit de vote pour les femmes, tout en précisant que le droit de vote ne supprime pas le principal obstacle au libre épanouissement de la femme prolétaire, la propriété privée, racine de l'exploitation et de l'oppression. Mais non. C'est vers les femmes russes que je me tourne. Ces femmes qui, dès le 19e siècle, ont participé à des combats. Ces femmes à l'origine de la révolution de 1917. Je me dois de leur rendre hommage.
Oh!
Vous venez d'entendre « Petite branche de sorbier », enfin en français, une chanson du folklore russe. N'oublions jamais que le 8 mars 1917, soit le 23 février dans le calendrier orthodoxe, à Petrograd, les ouvrières du textile, révoltées par les files d'attente devant les boulangeries, par la cherté et la rareté du pain, se réunirent, décidèrent de manifester, de se mettre en grève et envoyèrent une délégation de femmes demander leur soutien aux ouvriers métallurgistes de l'usine voisine. Elles ne tinrent pas compte, ces femmes, des ordres du responsable bolchevique. Leur détermination fut telle que les trois partis, bolcheviques, mencheviques et socialistes révolutionnaires, décidèrent, à contre-cœur, de les soutenir. Et ces femmes résolues contraignirent par leur volonté les trois partis socialistes à appeler tous les travailleurs sans exception à descendre dans la rue et à se mettre à la tête de la grève et de la manifestation. Se souviendra 6 ans plus tard Viktor Kayourov, le responsable bolchevique. C'est le commencement de la révolution. 4 jours plus tard sera constitué le Soviet de Petrograd et le tsar Nicolas II abdiquera le 2 mars du calendrier orthodoxe. Le geste décisif eut lieu le 25 février orthodoxe lorsque les femmes s'accrochèrent au canon des fusils des soldats prêts à tirer sur les manifestants. Elles les supplièrent de se joindre à cette foule. Ce fut la fraternisation, la révolution était en marche, le sort des femmes russes aussi. Et voici le chant des partisans soviétiques. Le sort de la femme russe sous le tsarisme se résume par ces vers du poète Andrei Voznesensky. Depuis des siècles, on bat le tocsin du mariage, on bat une femme. La femme était considérée comme un complice potentiel du diable, d'après le Domostroï, manuel de savoir-vivre écrit au XVIe siècle. C'est pourquoi son mari devait l'éduquer afin qu'elle plaise à Dieu, se soumette à son mari et organise sa maison. Car c'est elle qui devait donner l'exemple domestique. Elle se réveillait avant eux, s'endormait après eux et travaillait sans relâche. Cet ouvrage s'adressait aux couches aisées de la société et particulièrement au monde des marchands. Les paysannes, quant à elles, étaient de véritables bêtes de somme, battues d'abord par leur père et ensuite par leur mari. En ce qui concerne la noblesse russe, les femmes, jusqu'au début du XVIIIe siècle, étaient recluses chez elles et ne pouvaient sortir que voilées dans des litières aux rideaux tirés. Il existait aussi le térem, en fait le harem russe. Pierre le Grand balayera tout cela d'un revers de la main et imposera la vie à l'occidental. Fini l'usage asiatique. Mais il faudra plusieurs décennies pour que la société et le sort des femmes évoluent. Quant au monde paysan, même après la Révolution, il vit avec des superstitions. Les hommes continuent à battre leurs femmes. Je vous conseille de lire Récit d'un jeune médecin de Mikhail Bulgakov, qui se souvient d'anecdotes assez édifiantes sur sa carrière de médecin dans un hôpital de campagne. Le très beau livre de Nikolai Leskov, Lady Macbeth au village, illustre la situation de la femme russe. Son héroïne, simple objet décoratif, ne peut s'émanciper que par le meurtre et le suicide. Je vous laisse écouter un chant traditionnel russe qui s'intitule « Les pleurs de noces ». Tout un programme. En 1861, l'abolition du servage est décrétée par le tsar Alexandre II, qui pense éviter ainsi une révolution. Il a aussi en tête la création d'une classe ouvrière, car le tsar veut moderniser ses transports et son armée. Il désire entrer dans l'ère de l'industrialisation comme toute l'Europe. Cette loi sera un fiasco. Elle appauvrit la noblesse terrienne comme le paysan. En fait, le lot de 2 à 7 hectares que reçoit le paysan ne lui rapporte pas assez. En effet, il doit toujours au maître des corvées qu'il remplace par du numéraire. Aussi, il s'endette auprès de l'État et l'engrenage devient vite infernal. Et souvent, en plus de leur journée de travail, ils se louaient pour obtenir quelques roubles de plus. Pour exprimer cette souffrance, voici les bateliers de la Volga.
Еще розик, еще бы раз разовьем и березу, разовьем и кудряву. Ой, да, дай, да, ой, да, дай, да,
Pendant ce temps, dans les villes, la jeunesse russe cultivée commence à rejeter ce régime. Elle remet en cause les institutions sociales traditionnelles. Elle estime que dans la famille règne l'obscurantisme. Les femmes sont les esclaves de leurs maris, même chez les plus libéraux. La protestation de cette jeunesse est l'une des formes du nihilisme. Ce terme fut employé la première fois en 1861 par Tourguenieff dans son livre « Pères et fils ». Les jeunes révolutionnaires russes des années 1860 reprirent ce terme pour exprimer leur volonté de ne reconnaître aucune autorité et de nier toutes les valeurs alors reconnues. Lorsque je dis jeunes, je parle aussi des jeunes filles qui ne supportaient plus leur statut de filles à marier, de filles soumises et de futures épouses soumises. Sofia Kovalevskaya a laissé un ouvrage, une nihiliste, qui retrace son parcours et celui de cette jeunesse fortunée. Du début des années 1860 au début des années 1870, toutes les couches intellectuelles de la société russe n'étaient occupées que par une seule question, la rupture au sein de la famille entre les vieux et les jeunes. Une sorte d'épidémie poussait alors les enfants, surtout les filles, à fuir la maison familiale. On entendait dire que les filles des propriétaires terriens de notre voisinage s'étaient enfuies l'une à l'étranger pour étudier, l'autre à Pétersbourg chez les nihilistes. Le principal épouvantail de tous les parents et de tous les précepteurs du voisinage était une commune mythique fondée, selon la rumeur, quelque part à Pétersbourg. On affirmait que l'on y recrutait toutes les jeunes filles qui voulaient abandonner la maison paternelle. Les jeunes gens des deux sexes y vivaient dans le communisme total. On n'y admettait pas de domestiques et les distinguées jeunes filles de la noblesse lavaient les planchers et nettoyaient les samovars de leurs propres mains. Sofia Kovalevskaya avait une sœur aînée, Anna, qui fut d'abord une jeune fille idéale selon cette société, c'est-à-dire aimant les toilettes, les bals, les romans d'amour. Puis brusquement, elle se passionna pour la littérature. Elle devint d'ailleurs une amie de Dostoïevski. Et surtout, pour les idées politiques. Sociale. Elle entraîna Sofia dans son sillon et elles organisèrent un cercle de jeunes paysannes afin de les former. Il en sortira des sages-femmes, des infirmières et des institutrices rurales. Anna partit à Paris en 1868. Elle sera connue sous le nom de son époux Jacquelard et deviendra une militante active et une communarde qui fondera avec André Léo, une féministe militante et active, le journal La Sociale. Elle sera membre du comité de vigilance de Montmartre et de l'Union des femmes pour la défense de Paris. Là, elle sera chargée de l'éducation des femmes. Après la commune, c'est l'exil. Mais sa vie est trop riche, aussi je ne vous donne que quelques éléments. Quant à sa sœur, Sofia, après un parcours mouvementé, elle deviendra mathématicienne et sera la première femme à obtenir un doctorat en mathématiques en Allemagne. La première femme à devenir professeure d'université en Europe, à Stockholm, et à rejoindre le comité d'une revue scientifique. Ces deux sœurs représentent les deux parcours possibles que prirent de nombreuses jeunes femmes de l'aristocratie. L'émancipation par les études, accéder au savoir, certaines comme Julia Lermontova, la première femme russe docteur en chimie, en restent là. D'autres comme Anna aspirent aussi à s'occuper des femmes du peuple, à les libérer. Évidemment, cette aide humanitaire ne peut que déboucher sur la critique et la politique. C'est ainsi que vont éclore les écoles du dimanche pour alphabétiser des ouvrières et même des paysannes. En 1860, 2500 filles et garçons enseignent dans ces écoles qu'ils ont fondées. Une femme est emblématique du cheminement parcouru par les jeunes filles de l'aristocratie pour arriver de l'étude à la révolte, puis à la lutte politique et parfois même au terrorisme. Elle voulait par amour soulager le sort du peuple. Aussi, elle ouvre une école pour les paysans dans laquelle elle enseigne et elle crée des caisses d'épargne. Il s'agit d'Ekaterina Breshkovskaya, que l'on surnommera Babouchka au moment de la révolution de 1917. Beaucoup de jeunes filles, pour échapper à l'autorité paternelle, contractèrent des mariages blancs pour ensuite partir étudier en Suisse, à Zurich. D'autres, et elles furent nombreuses, s'engagèrent dans le cercle Tchaïkovski fondé en 1868-69 par Nikolaï Tchaïkovski, un étudiant révolutionnaire russe. Filles et garçons se retrouvaient autour de l'idée d'égalité. Il dénonçait les inégalités et les injustices et voulait diffuser dans le peuple une idéologie socialiste. Leurs activités consistaient à alphabétiser ouvriers et paysans, à expliquer aux opprimés les causes de leur situation et le fondement du capitalisme. Apprenez l'égalité homme-femme. Conférences et brochures populaires étaient leurs outils. Les jeunes femmes de la haute société s'engagèrent, devinrent infirmières, sages-femmes, enseignantes. Kropotkin, le prince anarchiste, écrivit à propos de ces femmes. Les femmes qui étaient l'âme du mouvement n'étaient pas simplement des féministes désireuses de conquérir leur part des positions privilégiées dans la société et dans l'État. Bien au contraire, les sympathies de la plupart d'entre elles allaient à la masse du peuple. Parmi ces femmes, l'on trouve Vera Figné, qui passa 20 ans de sa vie en prison pour avoir appartenu à l'organisation Narodnaya Volia, qui prépara l'attentat contre le tsar Alexandre II. Elle fit elle-même son plaidoyer devant le tribunal qui la jugeait en 1883. « J'ai commencé ma vie dans des conditions très favorables. Je n'ai pas connu de besoins matériels. À 17 ans, au sortir de l'institut, l'idée me vint pour la première fois que ma condition n'était pas celle de tout le monde. L'idée confuse que j'appartenais à une minorité cultivée éveilla en moi la notion du devoir envers la masse inculte qui vit au jour le jour, absorbée par le travail physique et privée de ce qu'on appelle de coutume les bienfaits de la civilisation. » Et aussi l'organisatrice de l'attentat contre Alexandre II, Sofia Perovskaya, elle aussi issue de l'aristocratie, ce qui ne l'empêcha pas d'être pendue. Et Anna Korba, qui après avoir été infirmière sur le front de la guerre russo-turque en 1876-1877, entra aussi dans l'organisation Narodnaya Volia pour abattre les hauts dignitaires et le tsar, et tant d'autres jeunes filles, jeunes femmes de la haute société russe. Comment ces femmes qui pensaient d'abord éduquer le peuple pour faire éclater la révolution en arrivèrent à se tourner vers l'engagement révolutionnaire? En fait, lorsqu'elles se trouvèrent confrontées à la misère et aux souffrances de cette multitude, au point de se demander si l'existence de ce peuple était humaine ou animale, elles se tournèrent non plus vers la propagande, mais vers l'action. Elles s'engagèrent dans la même vie que les ouvrières, se nourrirent elles aussi de pain noir et d'oignons. Et puis devant les difficultés à entraîner le peuple, ces femmes et ces hommes, car il ne faut pas oublier les hommes, se tournèrent alors vers le terrorisme. Avant d'en arriver aux attentats, ces jeunes femmes menèrent donc une propagande active et lorsqu'en 1875 éclatèrent des grèves dans les usines de textiles, elles furent arrêtées et après 2 ans passés en détention préventive, elles furent jugées en 1877. Sur 16 jeunes femmes arrêtées, une était devenue folle en raison des conditions d'enfermement. Elle finira d'ailleurs par se suicider. De quoi les accusait-on ? De propagande, certes, mais surtout d'avoir voulu saper les sacro-saintes valeurs de la société. Pour cette raison, elles furent lourdement condamnées. 9 ans de travaux forcés pour 2 d'entre elles et entre 2 et 5 ans pour les autres. Sofia Bardina avait refusé l'accusation et estimant qu'elle n'avait à aucun moment sapé les fondements de l'État. Et elle déclara « Si l'État doit être détruit, ce sera parce qu'il porte en lui le germe de sa propre destruction en tenant le peuple comme il le fait dans une servitude politique, économique et intellectuelle. Si nous devons avoir une révolution armée, c'est parce que dans les circonstances actuelles, ce mal est malheureusement inévitable. Il peut être dominé pour un temps, mais il renaîtra de lui-même avec une force encore plus grande, comme cela se produit toujours après ce genre de réaction. » Ses 9 ans de prison ayant été commués en exil en Sibérie, Sofia Bardina s'en évada en 1880, partit en Suisse et se suicida en 1883 à l'âge de 30 ans. Je clôt ici cette première émission sur ces femmes qui n'hésitèrent à aucun moment d'aller à la mort pour leur idéal politique, social, économique et intellectuel. Le féminisme, c'est la négation de l'égoïsme. C'est se battre pour tous et pour toutes classes confondues. Pour une société meilleure, donc égalitaire. On le voit, ces femmes ne revendiquaient pas une sexualité épanouie, libre et tutti quanti, car elles savaient que dans la société socialiste qu'elles défendaient, la sexualité ne serait plus un fardeau, elle serait librement choisie, librement consentie. Vous comprenez pourquoi j'ai une si grande admiration pour ces femmes et un tel mépris pour les poupées qui manifestent seins à l'air et couronnes de fleurs sur la tête. Je vous laisse avec un de ces chants russes douloureux, esclavage et souffrance. Bonne journée à tous et à toutes. Au revoir. Présenté par Jeanne Boursier
sur Radio Boomerang 89.7 FM.